Digue Radio, l'essentiel du Sud Vendée avec Clément.
Au sommaire de cette nouvelle émission, les chiffres des accidents en Vendée, retour sur le salon de l'emploi de Fontenelle-Comte et mon invité cette semaine qui sera Philippe Barré, vice-président de Sud Vendée Littoral et maire de Saint-Hermine. On commence tout de suite avec l'actualité du département.
Digue Radio, l'actu vendéenne.
Après un bilan 2023 inquiétant, où 57 personnes ont perdu la vie sur les routes de Vendée, celui de 2024 semble prendre le même chemin. Déjà 12 tués depuis le début de l'année sur le département. Excès de vitesse, alcoolémie, stupéfiants, inattention. Depuis le début de l'année en Vendée, 12 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du département. Face à ce constat, le préfet de Vendée, Gérard Gavory, promet de plus de prévention et plus de répression, avec notamment l'installation de nouveaux radars dans les endroits les plus accidentogènes. Notons que 5 radars de chantier vont être déployés sur les zones de travaux. La tolérance zéro sera de rigueur pour les comportements les plus dangereux. 2744 suspensions de permis ont été réalisées l'an dernier, soit une hausse de 7% en un an, principalement pour conduite avec alcoolémie ou sous l'emprise de stupéfiants, note le préfet. Petit point politique, la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, et le député de la 5e circonscription de Vendée, Pierre Henriet, viennent d'annoncer tous les deux qu'ils adhèrent à Horizon, le parti politique de Édouard Philippe, de quoi préparer l'élection présidentielle de 2027. En Vendée, la carte postale ne déçoit jamais. En 2024, les professionnels du tourisme s'attendent à une saison exceptionnelle. Floralie, Transatlantique New York Vendée, Flamme Olympique ou encore 10e Vendée Globe, il faut donc renforcer les équipes et c'est donc 11 000 postes de saisonniers pour la saison touristique qui sont à pourvoir. À Fontenelle-Comte, l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud a organisé vendredi 16 février le salon de l'emploi saison formation où près d'une soixantaine de structures étaient présentes pour cette deuxième édition. Retour sur cette journée avec Nadège Mercier, directrice du pôle économie et marketing.
Les retours sont positifs. Nos exposants ont affiché une certaine satisfaction et les visiteurs ont répondu présents à plus de 1000 personnes, 1000 entrées comptabilisées sur ce salon. Un des objectifs de Vendée Grand Sud et en partenariat donc avec la ville de Fontenay est de pouvoir réinitialiser, de pouvoir organiser une troisième édition de ce salon de l'emploi saisonnier et la formation.
Vous avez mis un questionnaire en place avec le lycée, les retours vous seront connus plus tard ?
Effectivement, donc une des problématiques pour pouvoir apporter toujours une meilleure satisfaction et aux exposants et aux visiteurs fait qu'on a réalisé une enquête de satisfaction sur site en partenariat donc avec les lycéens et puis le CFA des abeilles. On attend les retours, ils sont en train d'être dépouillés. Nous devrions avoir les premiers éléments d'ici un mois environ.
Notons que le prochain salon de l'emploi saisonnier aura lieu le mercredi 28 février 2024 de 14h à 18h dans la salle polyvalente de l'Aiguillon-la-Presqu'île. 600 postes sont à pourvoir pour cet été, alors pensez à vous munir de votre CV pour rencontrer les acteurs de l'emploi. On passe maintenant à l'actualité du territoire.
Digue Radio, l'actu du territoire.
La municipalité de Douai-les-Fontaines, commune de 1740 habitants située à proximité de Fontenelle-Comte, lance un appel à candidature pour exploiter le pôle commercial en construction sur la commune. L'établissement aura une superficie de 227 mètres carrés plus 80 mètres carrés de terrasses qui seront livrées en juin 2024 et qui regroupera une salle de bar presse, française des jeux, dépôt de pain, épicerie, point presse, une salle de restaurant pouvant accueillir jusqu'à 40 couverts, une cuisine, plonge et chambre froide. L'établissement sera situé au cœur du village de Douai, le long de la D20, un véritable axe passager où environ 2000 véhicules circulent chaque jour. Ce lieu de vie se composera en deux parties, avec la création d'une bibliothèque de 150 mètres carrés pour le volet culturel et la création d'un pôle commercial comprenant le commerce multi-activité et deux cellules commerciales. Pour tout renseignement, contactez la mairie au 02 51 50 45 45 ou par mail mairie@douaislesfontaines.com. Le village de l'île d'Elle vient d'être reconnu en état de catastrophe naturelle pour les inondations du 10 au 17 novembre 2023. Les habitants concernés ont 30 jours ouvrés à compter du 9 février pour contacter leur assureur. En revanche, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu pour Mareuil-sur-les-Dissets, précise la préfecture de Vendée. Le comité de biennale et la mairie de Fontenay-le-Comte ont annoncé le programme de la 70e biennale qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai 2024. Cette année, le comité de biennale a fait appel à un tourneur et a validé la venue de trois groupes le samedi soir place de Verdun. Il y aura donc Zouk Machine, puis le chanteur de R&B Colonel Riel et enfin Jesse Matador. De quoi mettre l'ambiance avant la grande parade de dimanche rue de la République où les chars fleuris des différents quartiers circuleront pour le plaisir des petits et des grands. Nous reviendrons bien évidemment sur cette grande fête populaire au début du mois de mai. La communauté des communes du pays de Fontenay-Vendée, dans sa volonté d'apporter un appui aux apprentissages sportifs dans le cadre scolaire, a mis en place un programme sportif à destination des élèves de cycle 2 et 3. En route vers les Jeux. Ce programme propose à toutes les écoles primaires du territoire des activités sportives sur une journée, encadrées par les éducateurs de la communauté des communes, comme lundi dernier à Montreuil. Rencontre avec Isabelle Bournoville, rectrice de l'inspection d'académie du territoire fontenaisien.
Aujourd'hui, les élèves qui sont présents dans la salle des 4 vents vivent un temps très fort dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle En route vers les Jeux. Il s'agit de préparer avec différents ateliers sportif qui mixe à la fois une pratique autour des sports co, de l'athlétisme notamment, des disciplines qui sont des disciplines olympiques. Et ces élèves qui sont des élèves de cycle 2, donc d'âge entre le CP et le CE2, vont tourner sur différents ateliers et vivre ces activités. C'est très riche, les collectivités mettent à disposition des personnels qualifiés pour être aux côtés des élèves. Et cela permet d'avoir une pratique de l'EPS qui est différente. L'EPS, j'aime à le dire, c'est le troisième volume horaire hebdomadaire en classe quand on est à l'école primaire. Ça représente 3 heures par semaine. Et bénéficier de la qualité d'infrastructure et qui plus est de professionnels en relais des professeurs des écoles, eh bien, c'est précieux. L'EPS, c'est une discipline à part entière et puis c'est aussi l'occasion d'apprentissages transversaux. Quand on est en EPS, on peut être arbitre, on peut être en appui auprès d'un camarade qui est d'habitude plutôt en réussite et qui, sur le terrain, rencontre plus de difficultés. C'est une discipline où les codes sont redistribués et où on forme non seulement nos élèves en leur apprenant des compétences spécifiques, mais aussi on forme de futurs citoyens avec toutes ces compétences transversales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu plaisir à venir voir les élèves sur les terrains pour voir toutes les interactions possibles. Je dirais en plus qu'il y a une dimension qui me parle profondément. C'est tout ce que je vois qui est mis en œuvre pour initier ces élèves au paralympisme, dans la mesure où ils vont aussi être initiés à des ateliers qui vont les mettre en position de personnes avec un handicap et de voir comment on peut pratiquer. Et cette ouverture d'esprit qui forcément fait partie de toutes les valeurs véhiculées par l'école inclusive, elle se vit aussi pleinement sur les terrains.
Nous reviendrons lors de notre prochaine émission sur le dispositif mis en place sur la ville de Fontenay-le-Comte avec Christelle Rouault, adjointe à l'enseignement et à la jeunesse. C'est une page de l'histoire de la ville de Luçon qui se tourne. L'ancienne piscine située rue de l'Adjudant Barrois est entièrement démolie. Construite en 1971, celle-ci est désaffectée depuis 2017. Dominique Bonin, le maire de la ville, Thomas Welch, le directeur général de l'établissement public foncier de la Vendée, et ainsi que Julien Sudreau, coordinateur au sein de la Ligue de protection des oiseaux, ont présenté l'opération de renouvellement urbain du site ainsi que le nouvel abri à chauves-souris qui est une première en Vendée. Face aux besoins importants de logements, c'est un ensemble de 49 logements, dont 10 locatifs sociaux, qui sera bâti sur le site par le groupe Lamotte. Restons du côté de Sud-Vendée Littoral et accueillons aujourd'hui Philippe Barré, vice-président en charge de l'Habitat, mais aussi maire de Saint-Hermine. Bonjour Monsieur Barré.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
On va revenir avec vous sur l'expérimentation que la communauté des communes Sud-Vendée Littoral souhaite faire cette année, donc le déploiement du dispositif hébergement temporaire chez l'habitant. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est quelque chose qui est très très simple. Ce sont des personnes qui se retrouvent avec souvent des grandes maisons et qui ont une chambre de disponible, donc chambre de 9 mètres carrés avec fenêtre. Et l'idée en fait c'est de la mettre à disposition pour des jeunes entre 15 et 30 ans, avec pour une nuitée c'est entre 15 et 17 euros. Donc l'idée c'est d'avoir un outil supplémentaire pour loger des jeunes. Alors c'est pas un logement qui va durer dans le temps. C'est maximum 8 mois dans l'année. Et puis, c'est quelque chose aussi qui est encadré. Hein. C'est-à-dire que on travaille à partir avec Escale Ouest. Hein. Donc, c'est notre partenaire au niveau de la Vendée qui fait l'intermédiation locative, qui met en lien donc, les hébergés et les hébergeants pour que ça se passe bien.
Pourquoi vous lancez des dispositifs sur le territoire de Sud-Vendée Littoral ?
Parce qu'il y en a besoin déjà. Et puis, ça s'est entrecoupé avec ce que je fais au niveau de la région Pays de la Loire. Donc, je suis conseiller régional en charge de la jeunesse et je m'occupe entre autres de l'habitat jeune. Et j'ai vu que ce dispositif donc, était développé dans les 4 départements de la région, sauf la Vendée. Donc, je me suis dit quand même, c'est dommage. Et dans le même temps, au niveau de Sud-Vendée Littoral, donc ça fait 3 ans, donc là on est en train de terminer un plan local de l'habitat, on a vu qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau de l'hébergement des jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de T2, il n'y a pas de petite structure pour héberger des jeunes. Mais il y a aussi des problèmes pour les apprentis, pour les saisonniers, pour se loger. Et j'ai entrecoupé ces deux problèmes hein, finalement. Et je me suis rapproché de l'URAJ, hein, l'Union Régionale Habitat Jeune, et donc d'Escale Ouest, pour développer HTH, donc l'hébergement temporaire chez l'habitant, au niveau de Sud-Vendée Littoral. Parce qu'on a une grande chance, c'est que c'est un territoire qui est dynamique.
Comment sont mis en relation donc, le jeune et l'hébergeur ?
Alors, au niveau de Sud-Vendée Littoral, on finance un salarié donc, d'Escale Ouest. Et donc, cette personne, elle va aller chercher des personnes qui se proposent pour être hébergeurs. Donc là, en ce moment, on est en train de faire des réunions publiques hein, pour présenter le dispositif. Après, il y a un contrat à faire, mais c'est pas du tout comme un contrat de location, c'est extrêmement simple. Donc ça, c'est la grosse force aussi. C'est-à-dire que c'est une page recto verso et c'est Escale Ouest qui s'en occupe. Et après, on met ça en lien avec ceux qui souhaitent donc un logement donc par rapport à l'endroit où ils travaillent, où ils font leur stage, où ils font leur saison. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de problème et donc qu'elle gère finalement tout ça entre les deux personnes. Quoi.
Oui, vous dites que vous avez organisé des réunions publiques. Vous vous sentez une envie auprès de la population de Sud-Vendée Littoral ?
Il y a une grosse envie. Et là, actuellement, ça répond énormément. Déjà, par exemple, au niveau de Saint-Hermine, parce qu'il y a des gros besoins au niveau du Vendéopôle. Et ça répond beaucoup aussi au niveau de la côte. Et de la tranche sur mer, parce qu'il y a la vraie problématique au niveau du logement des saisonniers. Et donc là, c'est adapté, clairement.
Si demain j'ai envie de devenir hébergeur, comment je fais ?
Alors c'est très simple, vous appelez le numéro suivant, donc 02 51 05 34 24. Vous allez avoir cette personne donc, qui travaille pour Escale Ouest, qui va venir voir votre logement, va voir si ça correspond aux différents critères. Et puis après, ça va être mis en lien avec les différentes demandes qu'on peut avoir. Parce que l'idée, c'est quand même de rapprocher le logement de l'endroit où on travaille. Quoi.
On va revenir sur les tarifs. Donc, c'est 15 euros la nuit donc, pour l'été, dans la limite de 270 euros par mois. Et pour l'hiver, on est à 17 euros la nuit, dans la limite de 290 euros par mois. C'est bien ça ?
C'est ça. Et on peut rajouter aussi le repas. Mais ce n'est pas une obligation. Et puis, il faut aussi laisser l'accès à la cuisine. Ça, c'est important. Je le dis, mais c'est important de rappeler ces petites choses.
Je vais revenir vers vous aussi sur un autre sujet d'actualité. Donc, on va passer sur le plus, le côté communal. Vous avez annoncé avec le maire de Saint-Jean-de-Beunier l'envie de créer une commune nouvelle avec la vôtre, qui est donc Saint-Hermine. Comment est venue l'idée et est-ce que c'est le bon moment ?
C'est toujours le bon moment de faire des bonnes choses. En l'occurrence, c'est le maire de Saint-Jean-de-Beunier qui était venu me voir au début de la mandature, donc en 2020. À l'époque, j'étais juste élu maire. Hein. J'avais été adjoint avant, mais bon, je commence à rentrer juste dans mes fonctions de maire. Faut se remettre dans le contexte. Hein. Il y a la période Covid. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, j'ai besoin de réfléchir. Et même déjà, j'avais besoin de réfléchir par rapport à la commune nouvelle. Parce que c'est bien de travailler ensemble, mais pour moi, il y a des conditions. C'est-à-dire que ces conditions, il faut qu'il y ait un vrai projet de territoire. Quoi. Il y a eu même une autre commune, qui n'était pas limitrophe de Saint-Hermine, mais réfléchissait à une commune nouvelle à plusieurs communes. Clairement, j'étais d'accord pour faire une commune nouvelle avec Saint-Jean-de-Beunier, parce qu'il y a un vrai projet de territoire à faire ensemble. Pourquoi ? Parce que le trait d'union, c'est le Vendéopôle, hein, clairement, avec 1300 emplois, et puis même finalement des modes de vie conjoints. Par contre, une commune nouvelle à plus de 2, j'y crois pas trop. Pour moi, c'est comme dans un couple, quand on commence à être 3, ça commence à être compliqué parfois.
Une commune seule, actuellement, n'arrive pas à vivre, vous pensez ?
Non, c'est pas forcément ça, mais je pense qu'il y a des vraies opportunités. C'est-à-dire que là, actuellement, sur le territoire, pas bien le territoire de Saint-Hermine, pas la commune de Saint-Hermine, on est dans une dynamique, c'est vrai. C'est-à-dire que le Vendée au pôle, là, il y a 1300 emplois, mais il y a 200 à 300 emplois qui sont prévus dans les 2-3 ans qui viennent. On le voit au niveau des constructions. Donc, il y a cette dynamique-là. Après, c'est très bien dite dynamique, mais derrière, il faut aussi que les infrastructures publiques soient à la hauteur. Et l'une des problématiques de Saint-Hermine, c'est qu'on a les infrastructures d'une commune de 5000 habitants. Et on a les dotations d'une commune de 3000 habitants, parce qu'on est 3000 habitants. Donc ça, c'est notre problématique. Après, concernant Saint-Jean-de-Beunier, c'est une commune qui fait un peu plus de 600 habitants. Et avec les obligations... que peut avoir un maire, donc elles sont assez importantes. Et au niveau administratif, au niveau de la structure administrative, elle n'est peut-être pas dimensionnée comme il faut. Donc je pense qu'on a un vrai projet à construire ensemble, mais ce n'est pas pour nous finalement. C'est-à-dire que Johan Guilbeault, comme moi, si on voulait être tranquille, on ne ferait pas une commune nouvelle. Mais derrière, construire cette commune nouvelle, c'est vraiment construire le territoire de demain. Parce que je pense qu'on verra vraiment les effets et les avantages de cette commune nouvelle, pas dans l'immédiat, dans 20, dans 30 ans. Et dans 30 ans, j'espère en tout cas, je ne serai plus élu. Et c'est ça en fait qui est... C'est chouette en fait de faire ça quand on est élu. Construire des choses qui nous dépassent complètement en tant que personne.
Quelles sont les échéances pour la création de cette commune nouvelle ?
Alors là, on est dans le travail de commission. Vous avez les deux conseils municipaux qui travaillent donc dans deux commissions. Une commission projet de territoire, une commission donc charte gouvernance. Et non, donc on va travailler comme ça jusqu'au mois de mars. De avril à juin, on va avoir ensuite donc deux réunions publiques. Une réunion publique donc à Saint-Jean-de-Beunier, une réunion publique à Saint-Hermine. L'idée, c'est que la population vienne avec toutes ces questions. Mais vraiment toutes ces questions. C'est-à-dire qu'on ne partira pas tant qu'on n'aura pas répondu à toutes les questions. Un peu ce que j'ai fait moi-même lors des réunions publiques, lors de la campagne des municipales. Je crois que la première réunion publique, je crois que ça avait duré 3 heures. Et les personnes venaient avec un petit bout de papier, ils me posaient leurs questions. Et en fait, c'est important parce que du coup, les gens partent sereins. Et nous, on part serein aussi. Après, il va y avoir un vote au niveau du nom de la commune. Donc, il y aura proposition de 3 noms. Donc, 3 noms différents. Par exemple, je ne sais pas encore les noms qui vont être donnés, mais est-ce qu'on garde le Saint ou pas ? Donc je pense qu'il devrait y avoir une proposition probablement avec Saint, mais bon, j'en sais rien, on verra. Ce sont les commissions qui vont travailler dessus. Et puis après, le 20 juin, les deux conseils municipaux respectivement se réunissent et votent pour ou contre la commune nouvelle.
Par rapport au nom, vous disiez donc qu'il va y avoir un nouveau nom. On est bien d'accord que les communes historiques donc de Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beunier garderont leur nom en tant que commune déléguée et que donc il y aura juste le nom de la commune nouvelle qui sera changé.
Oui. Et puis une petite précision aussi, c'est que la commune nouvelle, elle est effective le 1er janvier 2025. Si c'est voté le 20 juin. Et en effet, oui, les deux communes gardent leur mairie. C'est-à-dire que l'état civil, ça reste dans les deux mairies. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite Saint-Jean-de-Beunier, qui veut se marier, ça sera toujours à Saint-Jean-de-Beunier. Sur son adresse, s'il veut continuer à écrire Saint-Jean-de-Beunier et pas écrire le nom de la commune nouvelle, c'est possible aussi. Là, il peut y avoir des problématiques, c'est par rapport à des noms de rue, mais on a regardé rapidement. Pour l'instant, on n'en a pas vu, donc ça reste complètement à la marge. Et d'ailleurs, c'est important de garder cette proximité en fait, des mairies. C'est vraiment le bâtiment public. Et ça, j'y tiens énormément. Donc, je sais que Saint-Jean-de-Beunier a comme projet de rénover sa mairie et la salle qui touche cette mairie. Et ça, c'est quelque chose qui sera fait. Parce que la France, une de ses particularités, c'est d'avoir 40% des communes de l'Union européenne. Donc c'est ce qui fait la richesse de notre démocratie, c'est ce qui fait le lien de notre démocratie, et je crois sincèrement qu'il faut préserver ça. C'est-à-dire qu'on peut à la fois construire un projet commun, tout en gardant cette proximité. Et quand on regarde de manière globale, Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beunier, géographiquement vous avez l'autoroute qui passe entre les deux. Donc de toute façon, il faut garder cette proximité.
Merci à vous pour toutes ces explications que nous suivrons avec intérêt. On passe maintenant à l'agenda des sorties.
Digradio, l'agenda des sorties.
Et on commence par du théâtre avec la pièce Respire de Sophie Maurer, qui est une véritable ode à la vie portée par l'interprétation sublime de Romane Boringer. Une performance éblouissante à ne surtout pas manquer le mardi 27 février à 20h30 au pôle culturel Les Floralies de La Tranche-sur-Mer. Billetterie à retrouver sur www.latranchesurmer-culture.fr ou à l'office de tourisme au guichet ou au 02 51 33. 30 96. Le Conseil de développement, en partenariat avec la communauté des communes Sud-Vendée Littoral, vous invite à une série de conférences captivantes sur le thème essentiel de l'eau en Sud-Vendée Littoral. Rendez-vous le jeudi 29 février à la salle Othello de Mareuil-sur-Lay pour la deuxième conférence « Gestion et usage de l'eau ». Rejoignez-les pour explorer les enjeux passionnants liés à la gestion et aux usages de l'eau sur le territoire, une opportunité unique d'en apprendre davantage sur ce précieux élément qui façonne votre quotidien. Enfin, la fête foraine du printemps de Fontenay-le-Comte s'installe du samedi 24 au dimanche 17 mars 2024 sur la place de Verdun. Retrouvez la magie de la fête foraine où de nombreuses attractions attendent les petits et les grands. Les jours où tous les commerçants forains sont présents sur la fête foraine sont les mercredis, samedis et dimanches. A noter que quelques manèges sont ouverts tous les jours, sans exception. On se retrouve pour une nouvelle émission le jeudi 7 mars. En attendant, prenez soin de vous.
L'essentiel du Sud-Vendée vous était présenté par La Vendée Info.